Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris. Le débat est dirigé par Vincent Derosier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Cédric Villani.
Bonjour Vincent Derosier.
Merci d'être avec nous pour votre premier grand jury. On va passer une heure ensemble. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézet du Figaro. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Et Amélie Carouer de LCI et TF1. Bonjour, bonjour Amélie. Alors, on reviendra en fin d'émission avec Question Nette et Marie-Pierre Haddad qui nous rejoindra pour évoquer toutes les problématiques évoquées par les internautes. Et puis dans la question en plus, c'est Thomas Bourgenot qui s'adressera à vous. Il est le porte-parole de Résistance à l'agression publicitaire. On y reviendra dans quelques minutes. Alors, Cédric Villani, on connaissait le brillant médaillé Fields que vous êtes, le mathématicien. On a découvert un Cédric Villani plus politique ces derniers mois avec le député de l'Essonne élu en 2017 sous l'étiquette La République En Marche. Et puis les Français, les Parisiens aussi, ont découvert un autre facette de votre personnalité. Cédric Villani, le rebelle, celui qui s'assoit sur les règles de son parti, qui décide de se présenter en candidat dissident alors que Benjamin Griveaux...
La liberté.
La liberté. Et vous pourrez y répondre longuement pendant cette émission, Benjamin Griveaux qui a été choisi par La République En Marche. Alors, on y reviendra évidemment dans cette émission. Vous pourrez parler de votre projet pour la capitale, vos idées également. Mais on va tout de suite commencer par l'actualité, la polémique sur le voile qui n'en finit plus de durer. C'est Amélie Carouer de LCI TF1 qui vous pose la première question.
En effet, première question, la laïcité est-elle en danger dans notre pays, Cédric Villani? Une majorité de Français semble le penser selon un sondage paru aujourd'hui dans le Journal du Dimanche.
Il faut être très clair. Notre ennemi, ce n'est pas le voile, c'est le terrorisme islamiste. Ou tous les terrorismes, d'ailleurs. Et la laïcité, c'est ce trésor, la loi de 1905, qui nous permet de bien vivre ensemble. Ce matin, j'ai vu dans le Journal du Dimanche l'enquête que vous évoquez, et j'ai vu aussi la prise de position courageuse du président du Sénat, Gérard Larcher, qui dit bien qu'il faut préserver cette loi. Dans l'espace public, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Halte aux provocations, halte au prosélytisme. Mais ce ne sont pas les signes religieux en tant que tels qui posent problème.
Mais s'agissant du voile dans l'espace public, quand le président de la République dit que ça n'est pas mon affaire, vous dites il a raison, ça n'est pas son affaire, vous dites il botte en touche, il ne veut pas répondre.
C'est l'affaire de la loi. La loi, toute la loi, rien que la loi.
Le président de la République ?
Le président de la République veut dire par là qu'il ne souhaite pas rouvrir le débat sur ce qui se passe, sur la loi de la laïcité, en ce qu'elle protège les droits. C'est la même position que Gérard Larcher. Il est prêt à protéger les droits tels que la loi les demande.
Et quand Jean-Michel Blanquer dit que le voile n'est pas souhaitable pour la France, vous êtes d'accord ?
Jean-Michel Blanquer a bien dit qu'il ne souhaitait pas non plus une révision de la loi.
Non, mais sur
ce qui n'est pas souhaitable, c'est la provocation sur le terrain. Tout ce qui concourt à diviser, ce n'est pas souhaitable. Et on a passé tellement de temps, tellement de débats au cours de cette dernière semaine, des dizaines et des dizaines de polémiques. On a besoin de débats rasséréné,
mais
serein.
Pas bien. Vous êtes d'accord avec la phrase de Blanquer ou non ?
Jean-Michel Blanquer distingue entre ce qui est interdit par la loi, ce qui est souhaitable ou pas souhaitable. La façon dont il le dit, voilà. Tout ce qui va dans le sens d'un apaisement est souhaitable. C'est ainsi que j'interprète la position de Jean-Michel Blanquer. Et il a été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas rouvrir le débat sur la loi.
Vous dites que les débats sont interminables sur ce sujet. Est-ce que vous invitez Emmanuel Macron à prendre la parole sur le sujet de la laïcité et plus largement peut-être sur l'islam, puisqu'on le voit aujourd'hui dans le sondage que vous évoquiez, 60% des Français sont inquiets, estiment que l'islam n'est pas compatible avec notre société. Est-ce que vous invitez le président à prendre la parole ?
Le président prendra la parole en temps utile. Ce qui compte, c'est de bien rappeler que tout ce qui divise, tout ce qui coupe de la République est à combattre. Le mot-clé aujourd'hui, c'est citoyenneté. Citoyenneté inclusive. Et éliminer tout ce qui se met en dehors de la République. Dès que la foi veut être au-dessus de la loi, ce n'est pas acceptable. Tant qu'elle est respectueuse, tout va bien. Et il faut bien distinguer l'islam respectueux du dévoiement que constitue le terrorisme, la radicalisation. C'est ça nos vrais ennemis. Parler sans arrêt de voile... Ça nous détourne de ce qui est le plus important. De ce qui est le plus important. Ce qui est important, et je parle ici au premier rang parmi mes invités, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, qui sait bien où est le vrai ennemi. La radicalisation, le terrorisme. Trouver les signes qui indiquent qu'il y a un danger. Les repérer, les traiter avec rigueur. Et tout ce qu'on fait pour parler du voile nous éloignera de cela. Il y a un débat qui est important aussi, qu'il faut bien prendre en compte, c'est en position de représentation de la République, là, pas de signe religieux ostensible, comme on l'a dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale d'ailleurs.
Vous disiez que le président allait s'exprimer sur le sujet, c'est une info que
vous
nous
donnez ? En temps utile ? Non, absolument pas. Laissons au président le soin de s'exprimer quand il le souhaitera, sous la forme qu'il souhaitera. C'est un sujet ultra sensible, c'est un sujet sur lequel il faut éviter toute division, c'est un sujet sur lequel la parole du président est attendue et devra venir en temps utile.
Sur les signes, vous avez évoqué les signes il y a quelques instants dans votre réponse. Est-ce que vous êtes raccord avec les propos d'Emmanuel Macron sur la société de la vigilance, sachant qu'on a vu dans les jours qui ont suivi aussi ce que ça ouvrait comme limite, comme amalgame ?
La société de la vigilance, oui. Ce n'est pas de la défiance, ce n'est pas de la méfiance, ce n'est pas du flicage. C'est juste être attentif ensemble. Et c'est important. Pas de naïveté. Il ne faut plus qu'on ait des signaux faibles, des indices de comportement radical qu'on oublie. Vigilance, oui. Attentif ensemble.
Les listes communautaires aux élections municipales dont on commence à parler, pour vous, c'est quelque chose de préoccupant ? Et notamment en Île-de-France ?
Tout ce qui se met en dehors de la République, ou tout ce qui entend faire campagne sur des slogans qui veulent se couper de la République ou évoquent une loi au-dessus de la République, ce n'est pas souhaitable.
Mais il faut les interdire peut-être.
Et il faut les interdire, et la Constitution, certainement, bien interprétée, nous donne les moyens.
Il ne faut pas de nouvelle loi ?
Je ne connais pas le détail de la loi. Et je sais que le Premier ministre a exprimé son intention, le Premier ministre l'a bien dit. Nous devons lutter contre l'idée de communautarisme. Je crois que le mot-clé, c'est enclave. Tout ce qui tente à se séparer de la République, il faut le combattre. Mais la République est inclusive.
Comment on décide qu'une liste est communautariste et que telle autre l'est pas ? Enfin, sur quels critères ? C'est quand même pas simple.
Il y a une part d'appréciation. Est-ce qu'il y a de la provocation ? Qu'est-ce que la doctrine ? Quel est le slogan ? Quelles sont les images ? Tout est à prendre en compte. C'est l'intention de se séparer de la République ou de combattre la République qui compte.
Sur un tout autre sujet, on aimerait avoir votre opinion sur l'immigration illégale. Vous avez vu le drame des Vietnamiens dans trois camions. Les récits sont absolument atroces. Il y a de nombreuses victimes. Quelle est votre vision, votre programme ? Il faut des quotas de l'immigration choisie. On voit que le drame de l'immigration nationale est relancé par cette actualité. Votre opinion ?
Ici, nous voyons surtout une situation qui fend le cœur d'humains qui se sont laissés prendre au piège par des filières, par des passeurs. Il faut combattre ces filières. Sans angélisme, il faut aussi tout faire pour que l'accueil se passe de façon digne, respectueux des lois. Vous me parlez de migrants, évidemment, ça me fait penser à ces camps de migrants qu'on voit au nord-est de la Paris, porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, qu'on ne peut pas accepter. Il y a une situation indigne à ce sujet. Et si je suis maire de Paris, je considérerais cela comme une priorité que de s'occuper de ces camps de migrants pour qu'on n'ait plus un tel spectacle d'inhumanité à nos portes.
C'est-à-dire les fermer ?
Il faut s'occuper de répartir dans des centres d'accueil appropriés, de les répartir dans toute l'Île-de-France, voire dans la France entière, faire en sorte que tous ceux qui sont en situation légale puissent trouver une insertion, s'occuper dignement de ceux qui sont demandeurs d'asile. C'est un vrai problème à traiter avec humanité, avec efficacité, avec dignité.
Au niveau national, Cédric Villani, est-ce que vous êtes malgré tout pour une immigration plus restrictive ? Et sur la question des quotas, quelle est votre position ?
Nous devons aborder chaque situation en fonction du pays. On sait qu'il y a cette notion de pays sûr. On sait qu'il y a des cas dans lesquels l'immigration...
Ça, c'est pour l'asile. Là, on parlait plutôt de l'immigration légale. Est-ce qu'il faut des quotas ?
Ici, nous n'avons pas besoin de traiter des quotas tant que l'urgence ne le manifeste pas, tant que l'urgence ne l'impose pas. Humanité, sérénité, discussion. Il faut garder la tête froide. L'actualité récente... Ce sont surtout ces problèmes de terrorisme. Nous devons être unis. Pas d'amalgame entre l'immigration et le terrorisme.
D'ailleurs, on ne l'a pas fait.
Vous ne l'avez pas fait.
Considérez ou pas qu'il faut limiter l'immigration, que l'immigration familiale, par exemple, il faut la réduire. Je crois qu'il y aurait des mesures à l'étude là, sur ce sujet-là.
Je viens d'un milieu scientifique où l'on sait tout ce que l'immigration peut apporter de richesse. J'aime bien rappeler que 3 des 4 derniers médaillés Fields français sont nés en dehors de la France. Et tous les pays... Toutes les grandes nations de science sont attentives à garder une immigration qui apporte des talents. Demandez aux États-Unis, tous les grands dirigeants de start-up, tous les grands dirigeants sont opposés à la politique de Donald Trump, qui limite l'immigration d'une façon qui les empêche d'être compétitifs économiquement. L'immigration, quand on la traite bien, humainement, efficacement, est une richesse. Et la France est un pays qui a connu tant d'immigration. Pas d'angélisme, bien sûr. Le respect des lois de la République est un inconditionnel. Mais attention à ne pas faire d'amalgame.
Cédric Villani, on va passer à un autre sujet. L'actualité est très riche. Une grève illimitée va débuter dans les transports le 5 décembre. Paris, comme d'autres villes, mais Paris très spécifiquement, risque d'être paralysé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que déjà vous comprenez leurs revendications?
S'il y a des questions qui sont liées à la sécurité, qui sont liées aux retraites, il y a un dialogue à engager, comme dans toute grève. Je regrette que ça se soit engagé de façon aussi dure. Les questions de sécurité, il ne faut pas transiger. Et je pense qu'il faut tout faire pour éviter cette grève illimitée.
Pardon, quand vous dites engagé de façon aussi dure, de quel côté? Est-ce que du côté de l'exécutif, on y est allé trop vite et trop fort? Ou est-ce que du côté des grévistes, qu'est-ce que vous qualifiez?
Si on commence à rechercher qui est coupable, qui a commencé en premier, vous savez comment c'est.
De quoi parlez-vous, vous quand savez, vous dites ceci?
Si on commence à dire, voilà, c'est d'abord la grève qui a commencé trop fort, ou le gouvernement qui a répliqué trop fort, est-ce qu'on arrive à la solution? On n'y arrive pas.
Non mais quand même, vous...
Dialogue.
Représente député de la majorité, est-ce que vous soutenez cette réforme des retraites à point? Et à ce moment-là, vous dire ben, c'est une bonne réforme, non?
On a besoin de cette réforme des retraites, j'en suis persuadé. On a fait tant de réformes des retraites à chaque fois en changeant certains paramètres sans s'attaquer au fond. Et je fais confiance à Jean-Paul Delevoye pour bien mener les débats autour de cette réforme. On a besoin d'égalité, de justice, d'équité, qu'un euro cotisé corresponde à la même chose pour chacun. Et on a besoin de changer structurellement les choses, tout en gardant ce régime de répartition.
Cette réforme dont vous dites qu'elle est bonne?
Elle est tellement complexe, il y a tant de paramètres. Je regrette qu'il y ait eu de la confusion à un moment où on ait parlé de changement des âges de retraite. Ça a pu apporter de l'inquiétude. Il nous faut prendre tout le temps qu'il faut. Je répète, je fais confiance à M. Delevoye pour bien aborder le sujet.
Ce que vous venez de dire, c'était une pique adressée au Premier ministre?
Je pense qu'à un moment, le Premier ministre n'a pas eu une expression forcément heureuse. C'est le passé. Ce qui compte maintenant, c'est le futur.
En tant que
Et le Premier ministre a tant de dossiers complexes à gérer.
Vous êtes candidat à la mairie de Paris. Que doit faire Anne Hidalgo? Que feriez-vous pour cette grève? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, imaginer de réquisitionner des bus privés pour aider les Parisiens à circuler? Ou est-ce qu'il faut laisser cette grève aller jusqu'au bout?
Tout ce qui pourra aller dans le sens de la fluidification est important. Je me souviens d'avoir été pris à partie personnellement un jour de grève par une dame, une parisienne, qui me rendait quasiment responsable en tant que politique du fait que la grève allait l'empêcher de rentrer chez elle, qu'elle allait être dans les galères pour retrouver son foyer. Ce sont des situations dures, il faut les traiter avec le sens de l'urgence.
Mais réquisition, c'est quelque chose d'envisageable si ça doit durer trop longtemps?
Tout est envisageable, tout est à voir en fonction de la situation.
Parlons de la crise aussi à l'hôpital public notamment. Emmanuel Macron doit-il faire plus de moyens humains, financiers et plus vite aussi, dès maintenant? Que doit-il faire?
On précise que ce que demande le monde hospitalier, ce sont des moyens, des millions tout de suite, pas un plan à 5 ou 10 ans. Est-ce qu'il faut tout de suite débloquer de l'argent?
Le monde hospitalier a tellement besoin de moyens, on le sait. Et à l'Assemblée nationale, c'est un sujet qui s'invite quasiment tous les jours dans l'hémicycle. Et nous avons besoin sans arrêt de moderniser les hôpitaux, d'apporter plus de soins, de travailler sur les systèmes d'alerte. Il n'y a pas longtemps, il y a eu cette question sur les systèmes d'alerte qui sont arrivés. On a besoin de davantage de moyens, on a besoin aussi de modernisation. Nos hôpitaux, d'ailleurs, ont besoin de plus d'efficacité. Ça veut dire de la numérisation, de la modernisation dans le traitement des cas. Au niveau des urgences, nous avons besoin de davantage de modernisation de la prise en charge des appels. Ça passe aussi par de l'algorithmique.
Mais est-ce que maintenant, Agnès Buzyn, le gouvernement doit faire plus, donner plus pour répondre à cette crise qui perdure encore et encore maintenant?
Je fais confiance au gouvernement et à Agnès Buzyn pour trouver les bonnes mesures. Agnès Buzyn vient du monde hospitalier. Elle a une parfaite conscience des urgences et de la nécessité d'agir.
Alors, une question au député Cédric Villani. Vous votez un budget de la Sécurité sociale qui comprend 4 milliards d'économies. Il y a 1 milliard d'économies demandées à l'hôpital. Est-ce qu'on n'est pas en complète contradiction avec ce que vous venez de dire?
Je vous rappelle que le budget global de la France, l'an dernier, c'était 80 milliards de déficit. Il y a un équilibre à trouver. Ici et là, recherche d'efficacité, des moyens à mettre sur la table. Quel exercice compliqué que le budget? Et ça se traduit aussi, pour les députés qui sont actifs là-dedans, par des nuits et des nuits de travail.
Et vous n'aurez aucun problème à voter ce budget avec 1 milliard d'euros demandé à l'hôpital?
J'ai vu comment fonctionnaient nos collègues de la majorité. J'ai vu comment tout ce qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont remis sur la table pour travailler et travailler. Et le budget qui a été obtenu ici est un budget qui résulte d'un énorme travail que je salue.
Dans les mesures d'économie, il y a notamment l'idée de, il y aurait l'idée de mettre en place un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile puissent accéder aux soins. C'est le mécanisme de la protection universelle maladie. Est-ce que vous pensez que c'est bien ce délai de carence de 3 mois?
Je pense qu'il faut faire attention et voir comment ça évolue sur le terrain. Je pense qu'on a un équilibre à trouver. Oui, il faut éviter les abus, mais surtout, il faut préserver cette aide médicale
d'État. Vous n'avez pas l'air emballé par ce délai de carence?
Il faut faire très attention.
Oui,
il faut faire très attention.
C'est une manière pudique de dire...
Il faut faire très attention. L'aide médicale d'État, c'est à l'honneur de la France. Ça dit que n'importe quel être humain qu'on a là, qui est en situation de danger, on doit l'aider.
Quand le gouvernement et le président de la République mettent en avant les abus dans l'aide médicale d'État, le tourisme médical, etc., c'est quelque chose auquel vous êtes sensible ou vous dites qu'ils exagèrent?
Il ne faut pas avoir d'angélisme. Dans certains cas, je veux bien qu'il y ait ça, ce sont des cas très réduits. Je pense que c'est une petite portion de l'aide médicale
vous
d'État.
Vous dites Cédric Villani,
il ne
faut pas y toucher.
Je suis très attaché à l'aide médicale d'État.
Donc ne pas y toucher, du tout.
Y toucher avec la plus grande prudence.
D'accord.
C'est un principe de dignité, là encore. Les êtres humains en détresse à côté de nous, il faut les secourir.
Un mot à propos d'Emmanuel Macron. Là, on parle de crise, de malaise aussi, hein, l'hôpital public, les transports, les retraites. Emmanuel Macron, selon vous, il a tiré toutes les leçons des gilets jaunes. Et puis au passage, ça a souvent été qualifié ainsi. Et a-t-il gommé son image de président des riches?
Emmanuel Macron continue à agir. Je souhaite le succès de son mandat, bien sûr. Nous n'avons pas besoin d'instabilité pour la France.
Mais il a réussi à renverser un peu la...
Savez bien l'exercice du pouvoir. Il y a toutes sortes d'images qui courent sur vous. Très difficile de renverser les images. Et il a été attentif, au cours des derniers mois, à travailler sur des questions d'humanité, sur des questions sur l'avenir du monde. Souvenez-vous de ce G7. Souvenez-vous de la façon dont il a pu mettre sur la table les grands sujets. De l'écologie, le sort des Indiens d'Amazonie, qui sont dans une situation tellement dangereuse. Souvenez-vous de la façon dont il a mis les grands enjeux européens sur table. À ce moment-là, on avait vu un président qui s'intéressait au sort du monde en général.
Et des gilets jaunes?
Et les gilets jaunes, nous avons vu que... Comment c'est venu, les gilets jaunes? C'est venu au départ d'une explosion, d'une colère qui faisait suite à une mesure liée à l'environnement. Les gilets jaunes nous montrent bien...
Des taxes au carburant.
Absolument, la taxe carburant. Nous montre bien que les questions d'environnement, il faut toujours les traiter avec les questions sociales. Et je pense que c'est une leçon qui a été bien retenue.
Par le président de la République, il a tiré la leçon des gilets jaunes.
Par l'ensemble de la classe gouvernante.
Emmanuel Macron, du coup, est-il le bon candidat pour 2022?
Je souhaite que le président de la République réussisse.
Vous le soutiendrez quoi qu'il arrive?
Et s'il continue à mettre en œuvre un programme qui s'avère humain, qui s'avère engagé vers les réformes, s'il est à la hauteur du rendez-vous, bien sûr, je soutiendrai.
Donc c'est si. Vous soutiendrez si il fait encore ses preuves.
Vous voulez un soutien inconditionnel quoi qu'il arrive? Moi, je souhaite le succès du président. Je souhaite le succès du président. Et je soutiens le président.
Vous évoquiez, vous disiez si il continue les réformes, vous avez une hésitation là-dessus? Vous avez l'impression que ça ralentit, qu'il est en train de
reculer? Vous cherchez toujours... Dans la moindre hésitation, c'est le jeu du journalisme. Mais si j'avais dit je soutiens quoi qu'il arrive, vous auriez dit voilà, vous n'avez pas de conviction. Si je dis ah, si je fais ceci, vous dites ah, voilà, est-ce qu'il y a un doute dans ce que vous dites? Soyons sérieux. On sait bien comment ça se passe.
Donc, mais vous n'avez pas de doute donc, sur la poursuite des réformes?
Il y a des réformes en cours. Il y a un grand enjeu. Pourquoi j'ai adhéré au macronisme? Pourquoi je me suis retrouvé dans la vague qui arrivait? Parce que ça correspondait aux valeurs que je défendais moi-même. Que je défendais depuis mon engagement dans le fédéralisme européen dès 2010. C'est quelque chose que j'ai appelé fierté française, souveraineté européenne, très important pour l'avenir. Sans cela, la France ne pèsera plus rien, mais aussi libéralisme égalitaire, progressisme éclairé, conscience du monde. Ce sont les raisons qui ont fait que je me suis reconnu dans l'arrivée du mouvement En Marche. Et si je suis élu à Paris, j'appliquerai ces mêmes principes. Faire partir, faire avancer la ville vers le futur, la faire progresser, mettre ensemble les experts et les citoyens,
et
les expertises au service des citoyens.
On va parler de votre projet pour Paris dans la deuxième partie.
Et tout cela, je n'ai pas changé. Je suis fidèle toujours à mes engagements.
pour rester un instant Emmanuel Macron, il a raison de mettre en scène comme il le fait son affrontement avec Marine Le Pen. C'est pas un peu dangereux?
Vous avez vu récemment de quoi le Front National était capable, avec cette façon dont cette mère voilée, dans un lieu public, a été apostrophée par un élu du Front National, faisant pleurer le gamin, humiliant la mère en public. Vous avez vu ce dont ils sont capables? On ne peut pas accepter ça. C'est de la division, c'est de la haine.
Mais vous considérez que l'affrontement de la prochaine présidentielle, ce sera évidemment d'un côté Macron, de l'autre côté Marine Le Pen?
C'est vous le commentateur politique ou c'est moi?
Vous pouvez avoir un avis sur cette question.
Je suis sûr que le Front National sera encore dans le jeu, bien sûr. Je pense qu'on aura une position écologiste forte aussi, parce que on a vu aux dernières européennes à quel point les enjeux écologiques se sont invités de façon très forte dans le débat public. Il y aura peut-être une recomposition de la gauche. Peut-être que le décès du président Chirac suscitera l'émergence d'un renouveau du mouvement chiracien. Qui sait ce qui va se passer pour 2022? On va avoir une élection complexe à coup sûr.
Alors Cédric Villani, le parti La République En Marche, d'après le journal Le Monde, s'apprête à ressusciter le bon vieux Front Républicain, se désister, voter pour un candidat plus républicain que le candidat du Rassemblement National. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce Front Républicain? Est-ce qu'il a encore un avenir en 2020?
Je parlais à l'instant du président Chirac et vous vous souvenez justement de l'élection en 2002 dans laquelle il a incarné ce Front Républicain. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Les choses évoluent, mais toujours, on a besoin de faire attention à tout ce qui peut diviser, tout ce qui peut inciter à la haine. On en parlait tout à l'heure, et en fait, c'est le sujet à travers toute cette première partie d'émission. La division, les mouvements, la protestation, les polémiques. On doit sortir des polémiques. On doit arriver à rassembler plus que jamais et se concentrer sur les grands enjeux extraordinaires qui nous attendent.
Mais sur la division, vous êtes parti divisé, vous, à Paris, à La République
En liberté, je l'ai dit.
En liberté. Vous êtes parti en liberté. Vous avez tout de même refusé le verdict de la Commission nationale d'investiture. Vous êtes toujours 100% La République En Marche. Vous sentez La République En Marche. Vous portez ce drapeau La République En Marche malgré tout.
Tout à l'heure, je vous ai dit les valeurs pour lesquelles j'ai adhéré à La République En Marche et des valeurs dans lesquelles je me reconnais toujours. Je n'ai pas demandé à rester, je n'ai pas demandé à partir, je continue ma démarche en liberté. Et vous parlez de division, c'est pas mon truc la division. Ma candidature, c'est du rassemblement. Rassemblement. Et avec moi, dans mon équipe, il y en a beaucoup qui sont venus, de la droite et de la gauche, des anciens chiraciens, des transfuges de l'équipe Hidalgo, des Verts, des centristes, des gens qui s'engagent pour la première fois.
Vous voulez rassembler le maximum de gens autour de vous.
C'est ça le rassemblement.
C'est légitime. Mais malgré tout, quand vous êtes candidat alors que votre parti a désigné quelqu'un d'autre, il y a un peu un aspect de division. C'est difficile à dire le contraire.
Mais c'est cette démarche, c'est ma démarche, j'en suis convaincu, qui permettra de gagner. Aucun parti ne pourra gagner seul. Même La République En Marche ne pourra pas gagner sans alliance. C'est pour ça qu'on a besoin de rassemblement. Et ici, là, dans mes invités, il y en a quelques-uns qui sont emblématiques de ce rassemblement. Je pense à Anne Le Breton, élue du 4e, Anne-Christine Lang, députée de Paris, Mao Pénino, qui a démissionné des équipes Hidalgo, Paula Forteza, qui est reconnue comme une influenceuse mondiale de talent sur les questions de démocratie numérique. C'est comme cela que nous gagnerons, et pas autrement.
Thierry Breton, vous savez qu'on le voit à la Commission européenne, c'est plus que ça d'ailleurs, c'est un choix, c'est une proposition du président de la République. Est-ce que vous estimez que c'est un choix risqué? Vous avez entendu, comme nous tous, parler des risques de conflits d'intérêts.
J'ai eu l'occasion de travailler avec Thierry Breton et je sais combien il a à cœur de porter l'idéal européen. Coopération entre Atos et Siemens, c'est un modèle du genre. Thierry Breton, c'est l'un de ceux qui ont lutté fort pour que l'Europe ne perde pas la partie définitivement face aux GAFA, face aux nouvelles économies, face à l'Amérique. Et c'est quelqu'un qui saura parfaitement de quoi il parle quand il sera à la Commission pour défendre les intérêts de l'Europe.
Les conflits d'intérêts, c'est un non-sujet pour vous?
Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas dire d'un côté « Ah là là, quelle catastrophe, ces politiques qui ne connaissent pas le monde économique et le monde des technologies et des sciences. » Et dire de l'autre côté « Ah là là, quelle catastrophe quand il y a quelqu'un qui connaît le monde économique et le monde des technologies qui arrive dans le monde politique. »
Il n'y a pas aucun risque que l'affaire Sylvie Goulard se reproduise pour...
Je l'ai dit, je le répète, je pense que Thierry Breton est un excellent choix.
On va faire une toute petite pause sur cette question d'actualité. Pour vous interroger, c'est la question en plus. Vous allez être interrogé sur la publicité numérique.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Monsieur Villani, ici Thomas Bourgenot, porte-parole de l'association Résistance à l'agression publicitaire. Aujourd'hui, le règlement local de publicité de Paris interdit les écrans numériques. Or, le Conseil de Paris a décidé de réviser ce document en vue d'autoriser des téléviseurs géants diffusant de la publicité dans l'espace public. Le prochain maire de Paris devra se pencher sur le dossier. Ma question est donc, si vous êtes élu maire, que déciderez-vous à ce sujet? Est-ce que vous maintiendrez l'interdiction ou est-ce que vous autoriserez les publicités numériques? Merci pour votre réponse.
On vous écoute, Cédric Villani.
Si je suis maire de Paris, je maintiendrai l'interdiction. Je ne suis pas un fan de ces écrans numériques. À une époque où on doit faire attention à notre consommation énergétique et au confort visuel, c'est pas nécessaire. On me dira, oui, c'est des recettes en moins, c'est comme ça. Et on en tiendra compte dans le budget.
Alors, quelle publicité pour Paris? Est-ce qu'Anne Hidalgo mène la bonne politique?
On n'a pas besoin de trop de publicité à Paris. S'il y a quelque chose à réviser sur le programme de publicité à Paris, c'est peut-être les programmes d'affichage sur les copropriétés en rénovation. Quand il y a un enjeu thermique, écologique, un enjeu de rénovation thermique, peut-être qu'on peut avoir des étendards, des panneaux publicitaires plus grands pour financer cette rénovation écologique. Mmh. Mais dans le cas général, ces publicités numériques, je ne suis pas fan. Et je soutiens le mouvement de résistance.
Il y a un instant, vous parliez des GAFA. Il y a un sujet qui agite beaucoup la presse et au-delà en ce moment. C'est cette fameuse loi sur les droits voisins qui était votée à l'unanimité à l'Assemblée, qui prévoit une juste répartition des partages des recettes sur le numérique. Et là-dessus, Google, d'une part, et maintenant Facebook, d'autre part, viennent de dire « Mais non, la loi, on ne l'appliquera pas. Circuler, il n'y a rien à voir. » Qu'est-ce qu'on fait?
Il faut être ferme. Et on voit bien, on parlait tout à l'heure de cette résistance des GAFA. Il faut être très ferme. Il faut avoir conscience que ce qui se joue, c'est l'avenir de notre économie, de l'Europe face aux États-Unis. Il faut être très ferme.
Oui, mais une fois qu'on a dit qu'il faut être ferme, on fait quoi concrètement?
Et il faut aussi développer nos outils. Tant qu'on sera tributaire de ces plateformes géantes, complètement tributaire, sera dominé.
L'idée d'un démantèlement qui ne court pas en France, mais aux États-Unis de ces plateformes, ça vous paraît quelque chose de souhaitable?
Il y a eu une époque où on a démantelé pour moins que ça. Donc, les grandes compagnies pétrolières, c'est arrivé.
Ouais.
Aux compagnies AT&T, a été démantelé. C'était un gigantesque monopole. Maintenant, ce sont des monopoles encore plus grands, des oligopoles encore plus grands. Leur argument contre le démantèlement, c'est la résistance face aux géants chinois.
Chinois, exactement. Bien sûr, ça, c'est un argument qui a du poids.
Et c'est un argument qui est dangereux. Parce qu'on est là en train de laisser se faire la construction de géants incroyables. Qui sont parfois plus puissants que certains États. Il faut être très très attentif à ce qui est en train de se passer.
On va faire une toute petite pause, on parlait de publicité, c'est l'heure de faire une petite coupure et on va parler de votre programme pour Paris dans la deuxième partie de cette émission. A tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Cédric Villani, député de l'Essonne et candidat à la mairie de Paris. Le débat est dirigé par Vincent Derosier.
Alors Cédric Villani, on va parler comme promis de votre projet pour la ville de Paris. Tous les candidats aujourd'hui sur la place promettent d'être les plus écolos. Anne Hidalgo construit des pistes cyclables partout. Comment vous faites la différence? Est-ce qu'il faut un grand plan vélo? Quelle mesure concrète vous proposez pour être le fameux premier maire écolo de Paris?
L'écologie, c'est tout un ensemble. Vous parlez du plan vélo, on va en parler. Mais avant, on va rappeler que l'écologie, c'est le grand défi de l'humanité au XXIe siècle. Et qu'à Paris, qui a abrité la COP21, on se doit d'être exemplaire.
Ça veut dire qu'on ne l'est pas?
Pour l'instant, nous ne le sommes pas. Paris, la France en général, n'est pas exemplaire. On a ce devoir d'exemplarité. Paris a toujours voulu montrer le chemin au monde. C'est le moment de le faire aussi. Mon programme écologique, ça sera quoi? Un objectif zéro déchet, comme à San Francisco? Un service de navette partagée, comme à Berlin. Des rénovations thermiques, pour en finir avec les passoires énergétiques, pour en couper, pour sortir de cette dépendance énergétique. Il y en a en cours des programmes. Et il faut multiplier par 10, quelque chose comme ça, les programmes de rénovation énergétique à Paris. Ce sera dans les cantines, pour nos jeunes, pour nos seniors, du bio, des circuits courts, un objectif de santé, d'économie vertueuse. Et puis, ce sera une circulation apaisée. J'aimerais reprendre ici et soutenir la proposition de Pierre-Yves Bournazel pour des quartiers apaisés. Sur le modèle de Barcelone, les superblocs, des quartiers, des îlots dans lesquels les voitures roulent au pas, en cohabitation avec les vélos, avec les mobilités douces. et où on met le gros de la circulation sur de grands axes de trafic. Ces quartiers, ça fait des oasis,
Pierre-Yves
on
Bournazel,
peut végétaliser.
Qu'il est candidat aussi.
Pierre-Yves donc... Bournazel est candidat aussi, et bien sûr, j'écoute tout ce que disent les candidats.
Ah oui,
quand
c'est
il y a de bonnes idées,
un signal que vous
nous les travaillons
Pierre-Yves
ensemble.
Bournazel.
Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous partageons des convictions avec Pierre-Yves Bournazel. Et cette idée de quartier apaisé est une excellente idée, j'en suis persuadé. Et pour déterminer où seront les quartiers de la démocratie aussi, on consultera. Les auditeurs peuvent se demander...
Vous rejoindre, Bournazel ?
Je ne suis pas son porte-parole. Mmh. Je vous dis seulement, nous échangeons et nous partageons des convictions.
Ces quartiers apaisés, vous parlez de ce qui se fait à Barcelone, où on limite la circulation, c'est de ça dont
oui,
vous parlez.
Oui, absolument.
Les gens n'en ont peut-être pas entendu parler.
Ce sera l'occasion, les super blocs, très belle idée qui se fait à Barcelone. Et aussi, ce sera l'occasion de conjuguer ça avec le programme de végétalisation. Quand on écoute la façon dont les Parisiennes et les Parisiens imaginent leur Paris rêvé dans 10 ans, ils pensent vert, des jardins partagés, des îlots de fraîcheur, de l'agriculture urbaine. Et on a besoin de répondre à ce besoin, on a le devoir de répondre à ce besoin de vert. Mais bien sûr, ça sera aussi le plan vélo. On y vient. Vous parliez de l'action d'Anne Hidalgo à ce sujet. On a eu toutes ces controverses sur les travaux. Que de pagaille pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur.
Il y a des pistes cyclables qui sont en train d'être construites partout dans Paris aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, on a eu le rapport qui est encore sorti hier. Mmh. La part des trajets en vélo dans Paris, 4, 5% peut-être. Loin de Strasbourg, qui est à 16%. Ne parlons pas de Copenhague ou Amsterdam, qui ont fait des vraies transformations pour passer à un plan vélo.
Et donc, du coup, vous ?
Il faut renforcer, il faut accentuer. Et puis, il n'y a pas de raison que les pistes cyclables s'arrêtent au périphérique. Il nous faut des grandes voies métropolitaines. Il nous faut un vrai travail pour rationaliser. Il nous faut des parkings sécurisés pour éviter qu'on vous pique les vélos. Il vous faut une généralisation de Vélib à l'ensemble de la banlieue, de la métropole. Comment croire qu'on résoudra les problèmes d'environnement, les problèmes écologiques, les problèmes de pollution, les problèmes de transport dans Paris si on ne travaille pas avec la couronne? Et c'est précisément ce que la mairie actuelle n'a pas su faire, travailler avec la couronne.
On entend vos propositions, donc végétaliser, le plan vélo, zéro déchet, vous financez comment, quels investissements?
Et tout cela, ça demande de grands investissements. Je compte doubler les investissements qui viendront abonder des actions environnementales. Ça veut dire 5 milliards sur la mandature qui vient.
Ça veut dire que votre plan vélo aujourd'hui est encore au stade d'ébauche, on n'est pas sur une proposition. Vous dites que vous avez 125 propositions
chaque
aujourd'hui.
Chaque chose en son temps. Et ce débat, il faut l'organiser.
Mais qu'on comprenne bien, vous dites donc qu'il faut travailler davantage avec ce qu'il y a autour de Paris. Ça, c'est une chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Mais dans Paris, il faut quoi? Il faut plus de pistes cyclables? Il faut réserver des voies au vélo? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Vous avez raison. J'insiste sur cette question de travailler en accord
ça,
avec
on
la
a
banlieue.
Compris. Mais à l'intérieur
très
de
important
Paris.
Pour toutes sortes ouais. de sujets. Et à l'intérieur de Paris, nous avons besoin de pistes cyclables et de travailler sur les franchissements précisément. J'ai déjà fait une proposition là-dessus, doubler les franchissements doux, les pistes cyclables, tout ce qui permet de passer au-delà du périphérique. Travailler sur la suture, c'est capital. Et on a besoin de travailler sur recoudre ce lien entre Paris
d'accord,
et Saint-Denis.
D'accord, mais à l'intérieur de Paris, en gros, vous dites ça va, il y a suffisamment de voies cyclables, de pistes cyclables.
Le plan vélo.
Est-ce qu'il faut interdire davantage de voies aux voitures, par exemple?
Le plan vélo annoncé par Anne Hidalgo n'a pas été réalisé. On n'est à même pas 50% de réalisation. Allez voir Paris en selle, l'association qui fait référence sur le sujet, et ils vous en parleront. Ils vous diront qu'on est loin des réalisations. S'il y a eu toute cette pagaille autour des travaux qui se sont faits, c'est parce qu'ils venaient tous en même temps, précisément parce que le plan avait pris du retard. C'est de la rigueur, c'est de la bonne exécution. Et quand je dis je veux être le premier maire écologiste de Paris, c'est parce que l'écologie, ce n'est pas de la communication, de l'idéologie. Ce sont des idéaux, oui, mais c'est surtout de l'action. Faire les choses avec rigueur.
Un mot des trottinettes, elles nous font beaucoup, beaucoup parler, en tout cas les Parisiens, mais pas seulement d'ailleurs. C'est entré dans le code de la route, ça y est, limité à 25 km/h, il faut avoir au moins 12 ans, je ne vais pas tout décliner, mais est-ce que ça vous convient en l'état?
Les trottinettes, nous en avons besoin pour l'avenir. Mais attention, il faut qu'elles trouvent leur place. Pas sur les trottoirs, il faut les conduire de façon raisonnée. Quand vous voyez des fois des gens qui se mettent à 3 sur la trottinette et qui foncent, quand vous voyez des gens
ça serait interdit dans la nouvelle
pas.
Réglementation.
Mais bien sûr. Et il faut le faire respecter. Et il faut qu'on travaille sur les incivilités. C'est à ça aussi que, quand on développera la police municipale, qui s'occupera de regarder les incivilités, d'assurer une sécurisation.
Les agents sont chargés de faire respecter cette nouvelle loi, ce nouveau décret sur les trottinettes.
Les agents sont là de façon générale pour faire respecter la cohésion, pour éviter qu'on se tape les uns sur les autres.
Vous êtes pour la création d'une police municipale.
Je suis pour la création d'une police municipale et je renforcerai la police municipale. On annonce quelque chose comme 3500 agents dans la DPSP. Pour la police municipale aujourd'hui, j'en recruterai 1000 de plus. Nous avons besoin d'une police municipale bien formée, bien équipée, qui soit prête
répondre.
Le débat sur l'armement n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est la formation. Pas d'armement sans formation.
D'accord, mais s'il y a
formation, armement, oui, voilà.
Et Jean-Michel Fauvergue, ici présent, ne cesse de le répéter. Ce qui compte, c'est la bonne coordination des forces de sécurité entre police municipale et police nationale.
Vous n'excluez pas qu'elles soient armées si elles sont formées.
Et si elles sont formées, elles pourront être armées de la façon qui convient. C'est la formation la question. C'est la formation et les ressources humaines. Et nous avons besoin de former certains de nos agents. Nous avons besoin de créer cette police municipale comme un corps unifié, respecté, fier.
Mais donc il faudra recruter des agents et les faire travailler plus longtemps. C'est en tout cas ça votre ligne directrice.
C'est la loi, le fait de passage aux 35 heures, un an pour se mettre en conformité, c'est la loi du SOPT. Et c'est l'occasion justement de travailler en accompagnement de tous nos agents. Ici, je parle des 55 000 agents de la ville ou quelque chose comme ça. On voit à travers les taux d'absentéisme qu'il y a de la souffrance au travail. On a besoin d'aider nos agents à retrouver toute leur fierté et de leur donner les moyens. De leur donner les moyens d'offrir un service
Mais
de la meilleure qualité.
Mais 55 000, c'est beaucoup plus en proportion que le nombre d'agents municipaux, par exemple à Rome ou à Londres. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'agents municipaux à Paris ?
Faire attention à ce qu'on compare en fonction du périmètre. Mais c'est certain qu'il y a eu une dérive du nombre d'agents et qu'il y a une question d'efficacité qui se pose. Il y a des doublons, il y a de la réforme à faire.
Et vous allez donc réduire le nombre d'agents ?
Et on va s'engager vers une limitation du nombre des agents avec prudence, sans violence. Et en voyant partout où là c'est possible, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ?
Qu'est-ce qu'on peut faire
pour donner plus d'efficacité et réduire les dépenses ?
Deux questions très concrètes, précises sur le chapitre des transports. Faut-il interdire les 4x4 dans Paris, tout simplement, ces molosses qui parfois n'ont peut-être pas leur place, selon vous, dans Paris ? Et puis, les parkings gratuits sur les scooters, pour les scooters et les motos, faut-il changer les règles ?
Tout cela, ça s'étudie ? Quelle est la demande ? On sait qu'il y a, pour ces parkings, pour les scooters, pour les motos, des difficultés. On sait que, de façon générale, on manque de places de parking là où il faut, ici et là, dans Paris.
Vous ne savez pas encore.
Vous me parlez de ces parkings. Moi, je parle surtout de cette question majeure. S'il y a une question majeure à gérer pour les parkings, ce n'est pas sur la question des 4x4, ce n'est pas sur la question des motos, c'est les parkings aux portes de Paris. C'est les parkings qui permettront, les parkings relais, qui permettront vraiment de faire de l'intermodalité pour quelqu'un qui vient en voiture de passer dans les transports en commun. Là, on aura une vraie différence par rapport à la fluidité.
Une question sur la propreté également, on en parle beaucoup avec les images de rats qui circulent un peu partout dans le monde. Bref, vous critiquez beaucoup le bilan d'Anne Hidalgo, vous faites quoi, vous, pour la propreté dans la capitale ?
Pour la propreté, on engage un plan avec détermination. Si les rats sont là, c'est en particulier parce qu'il y a de la saleté, parce que les poubelles sont mal tenues. Et il y a des questions de réorganisation, d'efficacité des personnels. Il y a des questions d'outils, de modernisation des services. Il y a aussi une amélioration du service de l'usager. On entend ces témoignages de gens qui vous disent « Voilà, j'ai signalé telle chose dans ma rue et je n'ai pas eu de réponse. » On a besoin de travailler sur tout ça. L'usager, nos services, et les accompagner pour leur donner tous les outils.
Mais concrètement, les rats, si on n'arrive pas à les réduire, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens, ou que ce n'est pas les bonnes méthodes, ou qu'il n'y a pas de volonté politique, parce que c'est quand même, ça fait depuis le temps qu'on en parle.
C'est un peu de tout ça. Et les rats qui sont venus, après ils prennent leurs habitudes, ils viennent là où il y a de la nourriture. C'est un peu tout cela. Qu'on s'entende bien, les rats ils sont utiles, mais en dessous des trottoirs. On n'en a pas besoin au-dessus. Et je ferai tout ce qu'il faut pour les chasser. On a les exemples internationaux là-dessus. Si vous allez voir du côté de Vienne, qui est classé numéro 1 dans les métropoles internationales pour la douceur de vivre, pour le cadre de vie, ils ont su régler leur problème des rats en douceur.
On va parler de la campagne maintenant, Amélie Carouère.
Voilà, Cédric Villani, acceptez-vous, oui ou non, de débattre avec Benjamin Griveaux et d'autres candidats pour la mairie de Paris ?
Je débattrai avec les autres candidats quand tous les candidats seront déclarés. En particulier, il y a la campagne qui ne dit pas son nom de la maire de Paris. Tout le monde sait, imagine qu'elle sera candidate, mais est-ce qu'elle s'est déclarée ? quel sens ça aurait de faire un débat dans lequel l'une des protagonistes majeures ne serait pas présente.
Principal adversaire ou pas?
Qu'est-ce que ça veut dire, principal adversaire? En tout cas, une position très forte, on le sait aujourd'hui. Parce que même si l'actuelle maire de Paris a clivé énormément au sein de Paris, elle garde une position très forte en termes électoraux. Et on sait aussi, même par rapport aux résultats des dernières élections européennes, si on reprend les chiffres qui étaient excellents pour La République En Marche, et qu'on les transcrit dans le système électoral parisien, on voit qu'une alliance entre Anne Hidalgo et les écologistes l'emporterait. C'est cela précisément que je compte empêcher.
Alexis Brézet.
Mais vous excluez toute alliance avec Anne Hidalgo?
Je ne m'allierai pas avec Anne Hidalgo.
Ça, c'est sûr.
J'ai entendu les rumeurs. On a dit ici et là, il y a des tweets qui sont sortis. Le bruit court d'un ralliement.
C'est vrai que vous aviez été aussi dans le comité de soutien. Donc les gens se disent, il l'a soutenu, il va la soutenir.
Si j'ai soutenu, c'est parce que les objectifs affichés étaient importants. Écologie, innovation. Si j'ai soutenu, c'est parce que les objectifs étaient importants.
Qu'est-ce qu'elle a raté?
Et ça me rend d'autant plus légitime pour parler de bilan. Tout à l'heure, on parlait de bilan sur le vélo. Tout à l'heure, on parlait de bilan sur la qualité. Ce simple fait-là. Je vous parlais de ce classement Mercer, où Vienne arrive en premier. Paris, 67e. On ne peut pas dire que ce soit tellement encourageant.
Je vais poser la question
dernière
autrement.
Question avant question express.
Soir du premier tour, vous échouez. Excusez-moi pour l'hypothèse, mais tout de même, vous faites quoi? Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux?
Mais vous me parlez de fiction.
Oui, mais pourquoi
je
pas?
Je fais tout ce qu'il faut pour gagner. Je fais tout ce qu'il faut pour gagner.
Pour rester
et tout est en place. La campagne se met en place. La campagne est là. Aujourd'hui, j'ai des militants dans tout Paris qui tractent. De la porte de Vanves à la porte de la Chapelle. 17 comités d'arrondissement, 24 groupes de travail thématiques. Le programme s'écrit, le projet est là, les débats, les propositions vont venir.
C'est quoi votre différence de fond avec Benjamin Griveaux? Parce que finalement, vous êtes tous les deux progressistes, tous les deux écologistes, tous les deux pour la participation des citoyens. C'est quoi la différence entre Villani et Griveaux?
Il me semble qu'on a vu déjà sur les propositions que nous avons défendues l'un et l'autre, des divergences, des différences. Par exemple, sur le tirage au sort dans les listes, j'ai été violemment critiqué par le camp de Benjamin Griveaux. Par exemple, sur la question de Airbnb, le vote qui a eu lieu récemment au Sénat où Julien Bargeton s'est abstenu, qui dirige le programme de Benjamin Griveaux, j'aurais voté pour. Visiblement, nous n'avons pas la même appréciation de Airbnb.
Vous diriez que vous êtes plus à gauche que Benjamin Griveaux?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'essaie pas de me classer sur une échelle gauche-droite.
Lui, par exemple, est dans le rassemblement des classes moyennes. Benjamin Griveaux dit « Je suis le candidat des classes moyennes ».
Moi, je suis le candidat de toutes les Parisiennes et tous les Parisiens.
C'est une critique en creux du positionnement de Benjamin Griveaux qui se présente comme candidat des classes moyennes?
Moi, je m'occupe de ma campagne. Et c'est déjà toute une affaire. Je vous parle de tous ces groupes de travail à mettre en place. Tout le monde a recruté les 130 personnes qui sont dans l'organigramme de campagne. Le travail de terrain, tout le temps, dans tous les arrondissements. Quelle affaire! Je m'occupe de la campagne, je m'occupe du projet et je vous le dis, je vous le redis. Je suis candidat avec un projet simple. Je veux redonner aux Parisiennes et aux Parisiens le pouvoir de vivre. Je veux que nous travaillions ensemble sur un espace de vie apaisé et pour emmener, pour construire le nouveau Paris de demain. C'est ça mon objectif.
Merci Cédric Villani. On va, parce que le temps passe très très vite, passer à questions express, des questions très courtes. Et on attend de vous des réponses aussi courtes. Oui, terminé.
Un simple mot si vous me le permettez. Et je mettrai aussi toutes les sciences et technologies au service des Parisiennes et des Parisiens. Par exemple, l'intelligence artificielle sur laquelle j'ai rendu un rapport il y a 18 mois au gouvernement. J'avais insisté sur le fait que l'environnement était un secteur d'application majeur de l'intelligence artificielle. Au niveau national, ça n'a pas tellement été suivi des faits. À Paris, je le ferai. Et sur tous les sujets, que ce soit les plans de circulation, que ce soit les rénovations thermiques, que ce soit l'identification des bons îlots de verdure, sur tous ces sujets, l'intelligence artificielle aura des choses à apporter pour calculer les meilleures solutions.
Merci.
Et tout cela avec la démocratie.
Merci Cédric Villani. Alors, question express, des réponses très courtes. Est-ce que vous êtes pour ou contre le nouveau logo Paris 2024 pour les Jeux Olympiques, donc?
Moi, je l'ai trouvé bien. Il est élégant, il a la flamme, on voit la Marianne. J'aime bien.
Vous avez entendu les polémiques, mais ce logo est un bon logo pour les Jeux.
Et les Jeux Olympiques, c'est l'occasion de nous rassembler, d'accueillir le monde entier, de présenter le meilleur visage au monde entier. Et je serai heureux si quand on vient voir la capitale, demain, on dise « Ah, Paris, on connaissait la culture, on connaissait ses grands monuments, mais c'est aussi une capitale où il fait bon vivre. Ce sera une capitale propre, ce sera une capitale dans laquelle on se sentira en sécurité. »
pour ou contre la GPA et le recours aux mères porteuses, Cédric Villani?
Je suis contre le recours à la GPA et en particulier par rapport à l'état actuel de notre droit, c'est une marche considérable. Le Conseil d'État l'avait très bien expliqué quand il avait rendu son avis sur la loi bioéthique. La PMA pour toutes, c'est une petite évolution. GPA, ce serait une grande évolution. Je ne suis pas pour.
Vous êtes candidat à la mairie de Paris, donc vous êtes devenu un grand supporter du Paris Saint-Germain. Êtes-vous favorable à une prolongation de contrat pour Neymar au Paris Saint-Germain, sachant qu'il a énormément critiqué le club et que ce sujet divise les supporters? Vous voulez le voir continuer à Paris?
Nous verrons ce que les... Je ferai bien un petit référendum parmi les supporters, c'est sûr. Ce soir, démocratie toujours. Ce soir, je serai au match. Avec une pensée pour mon collègue Hugues Ranson, lui aussi député du 15e arrondissement, lui aussi un grand supporter du PSG, et avec qui d'ailleurs nous avons des discussions constructives sur ce qu'il faut faire à Paris, par exemple sur l'intergénérationnel, par exemple sur les maisons de proximité qu'il compte installer. Un type formidable. Nous nous retrouvons aussi, chaque fois que c'est possible, pour parler de son grand amour, le PSG.
Donc pour Neymar, vous ne vous prononcez pas?
Pour Neymar, laissons la démocratie parler.
Un pronostic pour ce soir, et puis on va tout de suite après passer à la question.
Je me garderai bien de tout pronostic. J'ai pas envie que ce soit la seule chose qu'on retienne de cette émission.
Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL nous a rejoint. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et
bonjour Cédric Villani. Alors, je vais vous lire un message qui résume à peu près l'ambiance qu'il y a eu sur le hashtag Le Grand Jury. C'est le message de Sylvie qui dit « Vous n'osez pas donner votre avis ». Et elle trouve que vous êtes un slalomeur, que durant toute cette émission, vous avez slalomé sans vraiment dire le fond de votre pensée.
Sur quoi par exemple?
Alors par exemple, du coup, les internautes nous ont écrit et ils cherchent encore mieux, malgré cette émission, à cerner votre projet. On a JC qui vous pose une question très précise. Il veut savoir si vous allez diminuer la rémunération du maire de Paris si vous êtes élu et par exemple suivre la recommandation de Pierre-Yves Bouvournazel, votre adversaire de l'UDI, qui lui propose une diminution de 20% du salaire de la maire de Paris.
Une diminution du salaire est une bonne chose, ça donne l'exemple. Attention à ne pas trop diminuer, ça fait démagogie.
Est-ce que pour 20%,
mais pour montrer l'exemple, je vais vous faire une confidence. J'ai même pas regardé quel est le salaire.
C'est pas ça qui me motive. C'est 1500 euros net. C'est Anne Hidalgo qui l'a dit. Elle touche 1500 euros net. Et elle a une indemnité d'environ 1000 euros en tant que vice-présidente du Grand Paris. Donc est-ce que 20%, ça vous paraît un bon chiffre?
1500 plus 1000, c'est ça le total?
C'est ça. C'est ce qu'elle a déclaré.
Ce n'est pas beaucoup.
Elle a déclaré dans une interview.
Ça me paraît pas beaucoup. J'aimerais bien qu'on vérifie avant de voir. Je vous le garantis. En premier, c'est pas ça qui m'a le plus occupé, c'est pas pour le salaire. De façon générale, vous savez, quand je suis passé du monde scientifique au monde de la politique, je savais que c'était pas pour faire fortune. Je gagnerais bien plus avec des postes et des invitations dans n'importe quelle grande université américaine. Je gagnerais 3 fois plus peut-être, avec 10 fois moins d'ennuis. C'est pas les questions de salaire qui m'ont motivé pour entrer en politique.
Autre question qui a été aussi posée sur le hashtag du Grand Jury. Le gouvernement veut favoriser l'ouverture des commerces alimentaires après 21h. Donc ils pourront rester ouverts jusqu'à minuit. Et cette mesure va être étudiée en Conseil des ministres cette semaine. Est-ce que vous, député et candidat à la mairie de Paris, est-ce que vous voteriez cette mesure? Est-ce qu'il faut ouvrir les commerces alimentaires jusqu'à minuit?
Après, avec toutes les complications qu'engendre la vie parisienne, on sait qu'on a besoin de travailler sur la question des horaires pour un peu tous les services. Mais ce n'est pas que les commerces. C'est aussi, par exemple, il nous faut des crèches avec des horaires décalés. Il nous faut des bibliothèques avec des horaires allongés. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel Anne-Christine Lang, ici présente, a co-signé une tribune avec Pierre-Yves Bournazel. On a besoin de flexibilité pour faciliter la vie des Parisiennes et des Parisiens qui sont souvent si occupés.
Juste un mot. Anne Hidalgo a parlé de son salaire de 6500 euros net et 1000 euros en tant que, 1000 euros d'indemnité.
La précision est faite.
Une question. C'est une petite différence.
C'est exactement ce qui a...
Vous étiez une bonne
question,
en mathématiques.
Une question de dernière minute, Cédric Villani, parce que le temps court. François Bayrou, à l'instant sur France Inter, propose que Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ou Jean-Louis Borloo soient candidats pour sortir de votre duel avec Benjamin Griveaux. Vous êtes prêt à leur laisser la place s'ils sont candidats?
Je ne suis pas le porte-parole de François Bayrou et ma campagne va jusqu'au bout, comme je vous l'ai bien dit.
Et vous attendez le soutien du MoDem? Vous l'espérez encore ou c'est cuit?
Avec le MoDem, nous discutons. Je ne suis pas le porte-parole non plus du MoDem, un parti dans lequel j'ai milité quelques années. Et je vous l'ai dit, je suis dans une démarche de rassemblement.
Merci beaucoup Cédric Villani.
Merci à vous.
Merci de nous avoir suivis dans ce Grand Jury. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Ce sera de nouveau Benjamin Sportouche.